Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de F1, une série produite par le Bulletin F1 racontant quelques moments historiques et ou inusités dans l'univers de la Formule 1. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 6. La plupart des championnats de soccer européens, dont la Premier League, ont débuté. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un fan de Liverpool et de l'Impact de Montréal en MLS. Mais pourquoi je parle de soccer dans un podcast de course automobile, me direz-vous? Pour deux choses. La première, vous serez surpris d'apprendre qu'il existait un championnat de course automobile mettant en vedette des clubs de foot. La deuxième, ça me donne une excuse de parler de mes deux passions. Il y a eu des clubs ayant commandité des écuries de Formule 1, comme Chelsea pour Sauber en 2012 et en 2013, ainsi que Queen's Park Rangers pour Caterham via leur propriétaire commun, Tony Fernandez. Mais un championnat avec des équipes du ballon rond, cela a bel et bien existé. Quand le soccer et la course automobile se rencontrent, cela donne une drôle d'idée. Cette semaine, Histoire de F1 vous raconte l'histoire du mort-né Premier One Grand Prix et de la défunte Super League Formula. Des crossovers, ça existe beaucoup dans le monde des arts et spectacles.
The Avengers.
Mais en sport, c'est très rare. Mais il y a le ice soccer. Allez regarder ça sur YouTube, c'est très très cool comme idée. Pourtant, deux sports ont tenté le coup. Le soccer et la course automobile. Commençons par la première idée, la Premier One Grand Prix. La Premier One Grand Prix était une série supposée réunir quelques grands clubs de foot d'Europe et d'Amérique du Sud. Malheureusement, aucune équipe de la MLS ne fut contactée pour ce projet. L'idée provint de Colin Sullivan, un homme d'affaires britannique qui avait essayé d'acheter le circuit de Silverstone en 1999. Sullivan présenta la suggestion à Graham Kelly, l'ancien directeur exécutif de la FA ou la Football Association, l'association de soccer anglaise. De plus, un consortium d'investisseurs formé par Sullivan et Kelly fit une étude de marché. Selon leurs recherches, environ 40% des détenteurs de billets de saison d'un club de foot avaient un intérêt particulier ou énorme pour la course automobile. Ouais, j'en connais quelques-uns qui auraient été la clientèle cible. Après avoir embauché Gary Crumbler, l'ancien directeur marketing de Williams, Graham Kelly, Colin Sullivan et compagnie présentèrent le projet à la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, et, en octobre 2001, la fédération approuva les plans de ce championnat inusité. Voici le principe de la Premier One GP. La série devait comporter 26 voitures de 26 équipes différentes avec le même châssis, qui était une Reynolds GP01 qui ressemblait à la Benetton B197 utilisée pour la saison 97 de Formule 1 pour l'écurie Benetton. Le format d'une fin de semaine de course? Une série de qualifications traditionnelles pour former la grille de départ et, le lendemain, le dimanche, deux courses d'environ 160 km ou une heure maximum, avec une pause de 30 minutes entre les deux épreuves. Un format assez similaire à une partie de soccer, ironiquement. Contrairement à la Formule 1 dans le temps, les ravitaillements en essence étaient interdits. Les récompenses totales en argent étaient fixées à 1 million de dollars US par course, avec le vainqueur de l'épreuve empochant 125 000 dollars. Comme au golf, le classement des pilotes et des équipes devait être déterminé selon la récolte totale d'argent. Les clubs de soccer s'associaient à des écuries de course et ces dernières embauchaient les pilotes et le restant du personnel, donc les mécanos, les ingénieurs, le marketing, etc. La Premier One Grand Prix avait même sorti un calendrier pour la saison 2002 qui devait commencer en juillet à Estoril au Portugal, hôte du Grand Prix de Formule 1 du Portugal durant les années 80 et 90. Les dates étaient choisies dans le but d'éviter un éventuel clash avec la saison en cours de Formule 1, aussi appelée la domination de Michael Schumacher en 2002. L'objectif était clair, attirer le plus de spectateurs possible et probablement rivaliser avec la Formule 1. Maintenant que le calendrier et la voiture étaient dévoilés, il fallait convaincre des clubs de se joindre à l'aventure. Selon une légende urbaine, la P1GP avait attiré jusqu'à 30 clubs. Les organisateurs avaient même eu des discussions avec des gros noms, le Real Madrid, la Juventus, Chelsea, Manchester United et le FC Barcelone. Au final, ils se retrouvèrent avec des partenariats avec Feyenoord des Pays-Bas, l'AS Roma et la Lazio Roma en Italie, Valence en Espagne, Benfica Lisbonne au Portugal, l'Olympique Lyonnais et les Girondins Bordeaux en France, et Chelsea, Tottenham et Leeds United. Même si Lyon était sur une lancée de 7 titres consécutifs en Ligue 1 à partir de 2002 et que, au moment de se joindre à la Premier One Grand Prix en 2001, Leeds avait atteint les demi-finales de la Ligue des Champions de l'UEFA, la liste des clubs n'était pas si sélecte que ça. Côté pilote, la sélection était bof. Chelsea avait confirmé l'embauche du nouveau retraité de la F1 en 2000, Johnny Herbert, vainqueur de 3 Grands Prix et fan de Chelsea. Benfica signa le Portugais Pedro Lamy, qui a participé à 32 Grands Prix entre 1993 et 1996, et Anderlecht, club belge, opta pour le Néerlandais Bas Linders, qui deviendra pilote d'essai en 2004 pour Minardi, aujourd'hui AlphaTauri. Il y avait même des rumeurs pour que 2 anciens champions de Formule 1 sortent de leur retraite pour se joindre à la série. On parle de Damon Hill, champion 96, et Nigel Mansell, champion 92. Malheureusement, les choses n'iront pas très bien pour la Premier One Grand Prix. Tout d'abord, Reynard, le fournisseur officiel des voitures de la série, déclara faillite en février 2002. Ensuite, malgré l'intérêt de quelques grands clubs, la P1GP ne put trouver assez d'équipes pour atteindre la barre des 26. Dans l'espoir de trouver plus de clubs et un fournisseur de châssis, le championnat décida de reporter ses activités à 2004. Regrettablement, en 2003, le projet de la Premier One Grand Prix fut abandonné sans avoir disputé la moindre course. Toujours sur une légende urbaine, Colin Sullivan aurait dépensé jusqu'à 100 millions de dollars pour organiser une série qui aurait pu rivaliser avec la Formule 1. En passant, 100 millions de dollars, c'est la même somme que McLaren a dû payer pour leur implication dans le Spygate de 2007. Si la première One Grand Prix fut classée comme championnat mort-né, l'idée d'inclure des clubs de foot dans une série automobile fit 2 autres petits. Bon, il y avait déjà la A1 Grand Prix, ce qui se rapprochait le plus d'une Coupe du Monde de Vroom Vroom entre 2005 et 2009. D'ailleurs, j'en parlerai dans un autre épisode de Histoire de F1. Et la Super League Formula, sur laquelle je vais m'attarder dès maintenant. Après avoir vu la Premier One Grand Prix mourir, Robin Webb, qui occupait le rôle de directeur de la Defense Series, poursuivit les idées de collab entre le foot et la course automobile. En 2005, il parvint à convaincre quelques clubs de créer le championnat absolu Foot Auto. Webb reçut l'accord de la FIA de présenter la Super League Formula. La saison inaugurale était prévue pour 2008 et la série trouva un accord avec Panos, une marque de châssis américaine qui avait conçu des bolides d'endurance, entre autres pour les 24 heures du Mans, et la dernière mouture de la série Champ Car. Panos conçut la DP09, une monoplace munie d'un moteur Maynard V12 4.2 litres. D'ailleurs, voici le son de ce moteur. En matière de performance, la DP09, pendant une épreuve de Super League Formula, se comparait plus à des monoplaces utilisées pour des catégories juniors qu'en Formule 1. Par exemple, en 2009, la Super League disputa un meeting au circuit de Monza en Italie. Le meilleur chrono en qualification de la DP09 fut de 1 minute 36 et 444 millièmes, alors que la Brawn de Jenson Button inscrivit un temps de 1:22.955 lors des qualifications du Grand Prix d'Italie de la même année, et le tout sur une piste sèche. Donc on parle d'une différence d'environ 14 secondes entre la Super League et la Formule 1.
Fucking hell!
La première saison de la Super League Formula en 2008 accueillit une sélection de clubs de renom comme l'AS Roma, le FC Porto, le Borussia Dortmund, l'Atlético de Madrid, l'AC Milan et Liverpool, mon préféré. Deux ex-pilotes de F1 prirent part à cette première campagne. Robert Doornbos, qui a participé à quelques courses de Formule 1 avec Red Bull, et Antonio Pizzonia, qui a roulé pour Jaguar et Williams. On s'entend que ce n'étaient pas des noms tant populaires. Désolé les gars. En ce qui entrait au format de la course, elle empruntait carrément le même système que la première One Grand Prix, c'est-à-dire deux courses de 45 minutes, dont la deuxième avec une grille de départ inversée. Le format changera l'année suivante avec l'ajout d'une troisième course de 5 tours, réservé au top 3 des deux autres courses. Le tout premier meeting de l'histoire, disputé à Donington Park en Angleterre, fut remporté par le Beijing Guoan et le FC Séville, qui est le récent champion de l'Europa League. C'est le Beijing Guoan, mené par l'Italien Davide Rigone, aujourd'hui pilote Ferrari en endurance pour les voitures GT, qui fut sacré champion de la première édition devant le PSV Eindhoven et le AC Milan. Au total, 18 clubs européens, asiatiques et sud-américains furent inscrits. Coudon, la MLS était loin d'être cool à ce moment-là. Bon, ok, Abdou, ne t'excite pas. En 2009, c'est Liverpool qui remporta les grands honneurs devant Tottenham. C'était la finale de la Ligue des Champions 2019 avant l'heure. Cette même année, la Super League obtint son premier commanditaire titre, Sonangol. La compagnie pétrolière angolaise soutenait cette série et donna son sobriquet à la série, la Super League Formula par Sonangol. Avoir une compagnie dans le nom d'un championnat, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, comme par exemple la Formule E avec ABB, la IndyCar avec Verizon, ou bien le bulletin F1 avec Oreo. Ben quoi, j'ai bien le droit de rêver. L'ajout d'un commanditaire aussi sérieux que Sonangol, malgré des accusations de corruption, signifiait que la série prenait du galon. Ah, je vous jure, le jeu de mots n'était pas voulu. La fin de la A1 Grand Prix, la Coupe du Monde du Vroom Vroom en 2009, pava la voie à la Super League comme mélange réussi entre le foot et le sport auto. Qui sait, peut-être que le succès de la série pouvait attirer de bien plus gros clubs dans les rangs. Avec la disparition de la A1GP, des nations se joignirent à la Super League Formula, comme équipe Chine, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud. Autre signe que la Super League prenait de l'ampleur, le champion de la saison reçut 1 million d'euros et le total des récompenses allait jusqu'à 5 millions d'euros pour l'ensemble des participants. Un record pour un championnat européen de course automobile. De plus, le championnat était visionnable dans plus de 190 pays sur les internets. Au Canada, les courses étaient diffusées en différé sur Setanta Sports, maintenant devenu Sportsnet World. Même les clubs retransmettaient les épreuves en direct sur leurs chaînes dédiées, comme OLTV pour Lyon ou LFC TV pour Liverpool. Devant en moyenne 6 millions de téléspectateurs par course mondialement, David Erigan permit à Anderlecht d'être sacré champion, battant Tottenham par seulement 2 points.
It's the same for you, it's the same for Harry, it's the same for Lucas, make the run!
Malheureusement, malgré le succès retentissant de la série, 2011 fut la dernière saison de la Super League Formula. Tout d'abord, plusieurs clubs décidèrent de quitter le navire et furent remplacés par des nations. Seuls l'Atlético Madrid et le Sparta Prague continuèrent l'expérience. Anderlecht, champion en titre, représenta la Belgique. Son pilote champion, David Erigan, se joignit à la GP2, aujourd'hui la Formule 2, qui est l'antichambre de la Formule 1. Ensuite, plusieurs épreuves prévues au calendrier 2011 furent annulées après les rendez-vous à Assen aux Pays-Bas et Zolder en Belgique. Finalement, on apprit que Sonangol se retira de son association avec la Super League. Adieu le commanditaire titre. Au bout de deux courses, c'était officiellement la fin. Robin Webb, le fondateur de ce championnat, dit que la série avait tout simplement manqué d'argent après le retrait de Sonangol. Pour lui, ce n'était pas vrai que la série avait fait faillite. Craig Dolby, ancien pilote pour Tottenham, avait vu venir la chute de ce championnat avec le retrait de plusieurs clubs et l'avènement de nations. Ce dernier, qui était au début de sa vingtaine d'années en 2010 et en 2011, clama que la Super League Formule 1 a propulsé sa carrière de pilote. Aujourd'hui, l'Anglais est pilote cascadeur pour des films d'action. Il fut présent sur les plateaux de tournage de Mission Impossible et du spin-off de Rapide et Dangereux, Hobbs and Shaw. Des anciens pilotes de Formule 1 ont aussi fait le saut en Super League. Outre Dornbos et Pizzonia en 2008, il y avait Enrique Bernoldi, Naren Kartikeyan, le meilleur ami de Sébastien Vettel, Franck Montmagny, Giorgio Pantano et Sébastien Bourdais qui s'étaient joints à l'aventure après avoir été remercié par Toro Rosso en 2009.
Mais arrêtez de me faire chier avec ça!
L'expérience de créer un championnat de course automobile avec des équipes de foot a été très innovatrice. Même de nos jours, proposer un tel projet aurait été saugrenu, mais assez intéressant. Cependant, est-ce que l'attrait aurait été le même qu'au début des années 2000 avec l'avènement de la Premier One Grand Prix? Chose certaine, le spectacle offert par la Super League Formula fut probablement meilleur que certaines courses de Formule 1 en 2000. Désolé. D'après moi, il y a plus de chances de faire revivre une Coupe du Monde de course automobile comme la A1 Grand Prix plutôt qu'un championnat similaire à la Super League Formula. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble la Super League, des vidéos des épreuves sont disponibles sur YouTube. Au moins, j'ai la chance de dire que j'ai vu Liverpool remporter la Ligue des Champions, la Premier League et la Super League Formula. Retrouvez tous nos contenus sur bulletinf1.com, notre site officiel. Pour continuer la conversation sur la F1 et sur les épisodes de podcast, retrouvez-nous sur Facebook à facebook.com/bulletinf1, sur Twitter @lebulletinf1 en un seul mot, ainsi que sur Instagram, toujours @lebulletinf1. La balado-diffusion Histoire de F1 se retrouve sur notre site, tout comme la balado originale Le Bulletin F1, disponible hebdomadairement sur bulletinf1.com ainsi que sur Spotify, Google Play Music, Apple Podcast et toute autre plateforme de podcast préférée. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour Histoire de F1. Je m'appelle Abdoussal. À la prochaine!